Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Avec Rocky, mon rêve éveillé avait le goût du possible et des exploits que l'abnégation permettait d'espérer. Oui, Rocky Balboa a réveillé notre apprenti philosophe, alors il l'a convoqué sur le ring ce matin avec d'autres et dans d'autres aventures. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
J'ai d'abord raté l'agrégation de philo. Premier lapsus, comme Rocky au sommet de sa gloire. Et comme Rocky, il s'est relevé et il a décroché cet agrègue. Bonjour Raphaël Eltoven.
Bonjour Christine.
Ces citations sont extraites de votre dernier livre et premier roman, Le Temps Gagné, aux éditions de l'Observatoire. Au milieu de ce récit, pas mal de références au cinéma, comme outil de construction, d'observation, outil critique et une coupable passion, écrivez-vous, quand vous étiez jeune, pour les films de merde ou Dixit, votre mère, des films manichéens. Rocky, avec pas mal de nuances, en fait partie. Il figure sur votre liste ce matin où l'on découvre que la philosophie s'accorde bien avec de jeunes poètes disparus, un extravagant citoyen américain, des hommes en noir, un temple maudit, Guitry, ou l'oracle et ses cookies. Enfin, bonne, très bonne nouvelle, Raphaël Eltoven, dès le 19 mai prochain, vous et nous redeviendrons des spectateurs de cinéma. Grand écran, grandes émotions. En attendant cette date, quelques conseils de livres et de films. On va dire que c'est parti.
Comme vous le savez, le collège Françoise Dolto est classé en zone d'évolution prioritaire. Nous accueillons cette année des élèves issus de la biodiversité. Je vous présente Paul, un nouveau camarade qui suivra avec nous les cours de préhistoire géo. Paul est un élève méritant, appartenant à une famille de céphalopodes modestes. Je vous demande de lui réserver un accueil chaleureux.
Moi, je veux pas être assis à côté d'une ventouse.
Bon, nous allons commencer ce trimestre en abordant un épisode dont vous avez sûrement entendu parler, la Seconde Guerre mondiale du feu. Qui peut me dire pourquoi les premiers hominidés étaient surnommés les poilus? Oui, Paul?
Je vous prie de m'excuser, mais je crois que le terme de poilu correspond plutôt à la Première Guerre mondiale du feu.
Oui, bon, peut-être. Ce conflit, donc, a occasionné des milliers de morts.
Pardon, mais si l'on tient compte des amibes et des bactéries, il serait plus exact de parler de milliards de morts.
Attends, t'as vu le nouveau? Il est trop fort! Être capable de prédire les résultats des matchs de foot une semaine à l'avance, c'est un truc du génie!
Ce qui est vachement touchant chez toi, c'est que on voit bien que t'es plus sensible que les autres, mais t'es vachement vulnérable à la fois et...
C'est comme si t'avais une sorte de pouvoir magique, tu vois. En fait, tu me fais vraiment trop penser à Harry Potter.
Vous voulez toucher mes tentacules, les filles?
Paul le Poulpe dans Silex and the City, c'est vous Raphaël Eltoven?
C'est vrai, c'est moi, j'ai mis un moment à me reconnaître.
Élève brillant, donc énervant, séducteur aussi, bref, plein de tentacules à votre arc. Plus sérieusement, on peut dire que le cinéma, dès votre plus jeune âge, a été, je le disais, est-ce que c'est vrai, un outil de réflexion, de construction et de révolte?
C'est un outil de libération.
Oui.
Je voyais sur l'écran des choses dont je n'osais pas penser que je pouvais les vivre, en fait. Et en les voyant sur l'écran, ou les livres avaient le même effet, hein, La Comtesse de Ségur marchait de la même manière. C'est-à-dire que les livres, comme les films, me montraient que ce que je vivais et que je n'osais pas croire que je vivais existait vraiment. C'est par la fiction que je comprenais que les choses que je vivais étaient réelles. Et donc c'est de cette façon-là. Donc le cinéma ne m'a jamais diverti, ne m'a jamais emmené ailleurs, m'a toujours ramené ici, là où j'essayais de ne pas être en fait.
Même les films les plus fous.
Mais oui, parce que vous avez toujours dans les films les plus fous des catégories fondamentales de l'esprit qui sont manipulées ou des problèmes qui sont les problèmes de tout le monde en fait.
C'est ce qu'on verra d'ailleurs.
Et voilà. Ouais. Et cette fraternité avec des scénarios qui sont des scénarios archétypaux en fait des compagnons de vie et en particulier les films simples.
Quand il remarqua ma coupable passion pour les films de merde, action, polar, blockbuster, mon père décida d'en faire mon apprentissage. Donc réfléchir sur ces histoires, ces films. Et vous citez dans votre livre Terminator un débat sur ce qui faisait l'humanité de l'homme et les paradoxes temporels. C'est pas drôle d'aller voir un film et ensuite de devoir faire un devoir de philo.
Non, c'était différent. C'était pour aller voir le film.
En plus...
C'était pour gagner le droit d'aller voir le film. J'avais besoin de justifier ma dilection. Comme j'avais envie de voir Terminator ou d'aller revoir Terence Hill et Bud Spencer ou d'aller voir Big Boss au cinéma quand il y avait une projection, etc. J'avais besoin de le justifier. Donc, pour aller voir Terminator, j'étais obligé de plonger dans le paradoxe temporel selon lequel, si je reviens en arrière, je ne peux pas avoir décidé de revenir en arrière, etc. Ou bien, pour aller voir Big Boss, je devais expliquer, je me souviens, mon père me demandait de lui expliquer la différence entre la justice et la vengeance. Parce que c'est tout le projet du film, c'est tout le... Et une fois que j'avais réussi à préciser ces choses-là, je gagnais le droit, enfin, d'aller voir mon film et de prendre mon plaisir ainsi. C'est ainsi que le cinéma a toujours été associé pour moi. Enfin, disons que la porte d'entrée vers le cinéma, c'était la réflexion. En fait, c'est pas
surtout, hein, parce que pour aller voir Debout, les crabes, la mer monte, c'est compliqué.
Non, ça marche aussi. Tout fonctionne. Alors, j'ai pas en tête le Debout, les crabes, la mer monte.
Non, mais bon.
Et votre arme secrète, vous, petit, ouais. C'est un garçon qui s'appelle Rocky. Ouais.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on peut retrouver ça en bossant tous les deux. L'œil du tigre, mec.
Oui, vous avez choisi donc Rocky 3, L'œil du tigre, 1983.
C'est
vous avez,
plus beau, hein.
Vous avez, oui, moi j'aime beaucoup le dernier Rocky Balboa quand il...
C'est vrai aussi, vous avez raison.
Vous avez 8 ans quand vous voyez ce film. Ouais. Rocky, vous dites, c'était mon optimisme, mon horizon, mon utopie concrète, mon Europe. Et je me suis mis à faire des pompes.
Oui. Absolument. Bah, c'est l'identification est facile parce que Rocky il est chétif, il est toujours plus faible que ses adversaires, il prend plus de coups que ses adversaires, mais il finit par gagner parce que il est incapable de perdre. Ou plus exactement, il est incapable de baisser les bras. Mmh. Et donc il donne à comprendre à l'enfant qui est plus faible que ses adversaires dans la vie parce qu'il est petit que la défaite c'est pas de se faire casser la gueule, la défaite c'est de pas se battre. Et c'est de baisser les bras. Et ça, c'est très simple à comprendre. Mais ça change la vie quand vous avez 8 ans et que vous croyez que la victoire, c'est de gagner. Alors que, et soudain, vous comprenez que la victoire ne dépend que de vous parce que la victoire, c'est de ne pas accepter de perdre. Quand vous comprenez ça, la vie change. Et effectivement, Rocky incarne ça et, par ailleurs, donne le sentiment que le corps qu'on a est un corps qu'on se fait et non pas un corps dont on hérite.
Son ennemi, donc, c'est Clubber Lang dans ce Rocky 3. Oui. C'est un peu le côté obscur de Rocky. Lui aussi, il vient d'en bas et réclame sa part du rêve américain. Rocky doit retrouver le feu sacré. Vous avez choisi cette scène entre le deuxième et le troisième round. Oui. On l'a mise en anglais parce que on vous expliquera pourquoi après.
Hey, what the hell are you doing? What the hell are you doing?
Look, the strategy, that's all. I know what I'm doing.
No, you don't know what you're doing. He's gotta come to you, you're the champ. He's nothing. He's mine.
You stand toe-to-toe with this farmer, he'll tell you. It doesn't take a man to stand there and get your head beat off.
He's getting tired. He's getting tired.
Don't go wasting your punches. Get a jam. Don't try to take him out with one punch. Use your head. Now you wear him down. He's all ours.
I know what I'm doing. I swear I know what I'm doing.
Don't tell me what you think. Go out there and do it, Rock. I am the tiger. You understand?
Yeah.
Go out there and knock his head off. He's just a man, Rock. He's just a man, right? Be more man than him. Go get him! I am the tiger! I am the tiger! Up and down, side to side!
All right, it's the beginning of round three.
Oui, c'est important cette réplique « He's just a man » et après il réplique quoi ?«
Be more man than him », ce qui est magnifique. Apollo Creed est devenu l'entraîneur de Rocky.
Oui.
Son entraîneur, son manager est mort au début du film. Rocky a perdu son titre et perdu son entraîneur la même journée.
Oui.
C'est une catastrophe, double catastrophe. Apollo Creed reprend le flambeau, devient l'entraîneur de Rocky. Mais surtout, Rocky se voit en situation. L'œil du tigre, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un homme qui a tout possédé et qui doit retrouver le désir de ce qu'il a possédé.
Oui.
Comment désirer ce qu'on a eu ? Comment désirer ? Guitry dit « je ne désire que ce que j'ai ». C'est la formule de la sagesse. Comment désirer cela ? Rien n'est plus facile que de désirer ce qui nous manque. Vous n'êtes pas champion du monde, vous voulez devenir champion du monde. Ça se comprend, vous avez un but dans la vie. C'est le self-made man à l'américaine. Rocky n'est pas un self-made man, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Rocky, c'est quelqu'un qui doit retrouver le désir de ce qu'il a déjà eu dans le 3. Et c'est beaucoup plus difficile pour lui de battre Clubber Lang alors qu'il a perdu son titre que de battre Apollo alors que c'est un boxeur anonyme.
C'est intéressant parce que vous avez aussi un autre exemple jeune, c'est Bruce Lee. Mais Bruce Lee, vous êtes dans l'admiration, alors que c'est plus grand que vous.
Bruce Lee bougeait, et c'était aussi un effet du cinéma hongkongais, avec les bruitages extraordinaires,
ouais.
Qui étaient délibérément exagérés. Bruce Lee bougeait à la vitesse de la lumière. Oui. Donc on était ébloui par ça et on imaginait soudain qu'il était dépositaire d'une sorte de science du corps à laquelle jamais personne, aucun humain, aucun autre humain, en particulier occidental, ne pourrait prétendre. D'autant qu'il éclatait des Américains trois fois grands comme lui, Chuck Norris, bref. Oui. Et donc Bruce Lee était cette figure de la perfection, de la célérité absolue. Alors que Rocky, il est lent, oui. Il est pataud, il prend des coups sur lui, il a besoin de pousser l'adversaire pour le frapper poussivement sur les côtes, mais il finit par l'emporter. Et le genre de victoire est une victoire à portée de tout homme. C'est ça qui est beau.
Et c'est le coup de la grègue, donc de l'agrégation. Vous dites, vous l'avez pas la première fois.
Oui, je l'ai pas la première fois.
Vous allez vous relever comme Rocky, donc pour.
C'est très exactement l'équivalent. Le troisième round de la fin de Rocky 3 entre ouais. Rocky et Clubber Lang, qui est pour moi un sommet de tension au cinéma. C'est vraiment sublime. Ouais. Ce moment-là d'extrême tension où la musique hésite entre la défaite et la victoire. Ce moment-là est à l'image de tous les moments de la vie où il s'agit de se relever et, quoi qu'il arrive, de pousser le caillou aussi haut qu'on peut. Voilà.
Sur la route de la violence, vous croisez aussi ce film, Indiana Jones et le Temple Maudit. On est en 84, vous avez 9 ans, c'est le deuxième épisode réalisé par Spielberg. C'est vraiment pas le meilleur, je dirais même presque le plus mauvais. Indy est parachuté en Inde avec son acolyte, donc le petit demi-lune, et la chanteuse de cabaret Willie Scott. Ouais. Tout au long d'une aventure qui les mèneront au cœur d'un temple effroyable, le trio se battra pour libérer des enfants esclaves et ramener un trésor inestimable. Pourquoi celui-là?
Alors, pour mille raisons. D'abord, permettez-moi, l'enfant que je suis s'insurge contre votre diagnostic, je trouve que c'est le meilleur.
Vous aimez la musique, alors, parce que c'est rock.
Je regardais ce truc et le début va à une telle vitesse, je n'en revenais
mais
pas qu'on ait pu,
vitesse.
Je n'en revenais pas qu'on ait pu imaginer un film pareil, en fait. Quand je le voyais, j'étais au cinéma, j'étais ébloui.
Je suis pas la seule à le penser, Spielberg le pense aussi,
d'accord. Mais, et vous savez, les auteurs sont très mauvais juges de leur propre travail. Si je vous dis du bien du mien, c'est que je me trompe. Dans le film, dans le film, il y a quand même cette scène où il s'agit de sacrifier des humains à Kali.
On va y arriver, ouais.
Et il se passe à ce moment-là.
On y va maintenant. Allez, on lance la scène. Donc en fait, ils ont été pris tous les deux dans ce temple.
Willie est dans une sorte de grille-pain, oui. Et elle doit être précipitée dans une fosse à lave, voilà. Là où on sacrifie les humains. Ouais. Et les humains, avant de les sacrifier, le sorcier Molaram, qui a des trucs comme ça, a la capacité d'arracher le cœur de l'humain.
Ce qu'il a fait dans la scène précédente.
Ce qu'il fait 10 minutes plus tôt. Oui. Et il tient le cœur qui flambe pendant que l'individu qui a été donc excoré, je sais pas comment on dit ça, oui. Se retrouve décoré, se retrouve dans la lave.
Mais qui est toujours en vie, hein. Il a plus de cœur.
Il est toujours en vie,
alors qu'on tient
son cœur. Voilà. Exactement. Il arrache le cœur et le palpitant continue de palpiter pendant que le mec va brûler son. Oui. Et arrive la scène où il doit faire la même chose à Willy.
Donc c'est comme une bande-annonce, la scène de l'esclave.
Mais techniquement, dans le scénario, scénaristiquement, il n'y a aucune raison que Molaram épargne Willy, ne lui arrache pas le cœur, c'est une saloperie d'occidentale blanche, il a toutes les raisons de le faire, il la déteste, il veut la sacrifier, tout le monde est avide de ça.
Sauf que c'est une femme, est-ce qu'il ne le fait pas pour... parce que c'est...
Non, il s'en fout énormément, ça le dérange pas du tout, il sacrifie tout ce qui est les enfants, les femmes, il n'y a aucun problème. Non, il ne le fait pas parce qu'il n'a pas le droit, parce que le film changerait de nature si on arrachait le cœur de l'héroïne.
Mais oui.
Et donc les scénaristes, pris par leur propre scénario, c'est là que le film est mauvais peut-être, mais qu'il est génialement mauvais, sont obligés de dire, finalement il a changé d'avis. Finalement il arrache pas le cœur.
Mais Raphaël Neuvaine, dans tous les films, il y a des choses comme ça, des incongruités.
Mais quand vous avez 8 ans...
Pourquoi se poser la question sur celui-là?
Mais parce que quand vous avez 8 ans et que vous êtes au cinéma, vous regardez tout ça comme des demi-dieux qui se débattent, si vous voulez, vous voyez ça comme des sortes de perfection, comme un Olympe qui vous fait des clins d'œil, et soudain vous découvrez un truc qui déconne. Et moi j'étais émerveillé de m'apercevoir que dans ces mondes parallèles parfaits où les héros gagnaient toujours, etc., etc., il y avait des artifices.
Donc c'est un désenchantement, quelque part.
C'est un désenchantement. C'est un désenchantement, mais que je ne pouvais pas partager. C'est un désenchantement enthousiaste. J'étais ravi de trouver ça, et un peu inquiet que ça n'inquiète que moi.
En même temps, vous savez pourquoi il la sauve aussi, Spielberg?
Parce qu'il l'épouse.
Voilà, exactement. Oui, parce qu'il est amoureux d'elle. Il est tombé amoureux d'elle sur le plateau.
Par ailleurs, il l'épouse. Il est tombé amoureux d'elle sur le plateau.
Vous êtes vachement au courant de toutes ces
histoires-là. Moins que vous,
hein.
Je suis ébloui par votre.
Non, mais ce qui est beau, c'est que le fait de retirer le cœur de l'esclave avant, c'est ménager un suspense dingue aussi. C'est dire, voyez, ça peut lui arriver aussi à elle.
Oui, mais il est inexplicable qu'il ne le fasse pas.
Et puis l'idée, c'est quand même que ce soit Indiana qui la précipite dans le brasier.
Absolument. Oui. L'idée, c'est que ce soit lui qui le fasse et que par ailleurs lui-même guérisse opportunément. Voilà. Tout ça est cousu de fil blanc. Mais je n'aime pas la façon dont ils s'en sont sortis sur ce coup-là. Voilà.
Celui-là n'est pas évoqué dans votre livre, Raphaël Enthoven, mais ne pouvait pas échapper à votre regard de philosophe. Le cercle des poètes disparus, ah, oui. Peter Weir, 1990. L'histoire en deux mots, une école américaine prestigieuse et sa devise, tradition, honneur, discipline, excellence. Et à contre-courant, un prof, Monsieur Keating, qui va encourager les élèves à refuser l'ordre établi et les inviter à penser par eux-mêmes. Est-ce que vous avez pensé, en voyant ce film, donc vous aviez 15 ans, à une certaine Sabine Morel?
Oui, mais je ne la connaissais pas.
Mais je ne savais pas,
en voyant ce film et en pleurant comme une madeleine à la fin de ce film, chaque fois que je suis allé le voir en salle et en assistant à ce moment extraordinaire, tout le monde applaudissait, hein, à la fin du film, toujours. Après chaque diffusion, enfin, les gens applaudissaient.
On y reviendra, mais Sabine Morel, c'était votre prof de français.
C'était ma prof de français, elle est apparue 2 années plus tard. C'était Madame Keating, en fait. Robert Keating, qui veut leur apprendre à penser par eux-mêmes. Le propos est un
Robin
peu démago, si
oui.
vous voulez. Il consiste à dire.
Un peu répétitif aussi.
Oui, mais c'est pas grave. Ça n'est pas grave.
D'accord.
La simplicité n'est pas un crime. Ça n'est pas grave. Bien sûr que tout le savoir qu'on vous met dans la tête ne vous empêche pas de penser par vous-même et que cette opposition, elle est simple, elle est sommaire. Mais la fin. Quand les élèves rendent hommage à leur professeur, pardon.
Eh ben non, pas pardon. On va écouter. Vous allez commenter ensemble.
I said leave, Mr. Keating.
Il lui dit partez, Monsieur Keating. Il va reprendre ses affaires parce qu'il a été renvoyé.
Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down.
Là, c'est merveilleux, pardon. Ce qui se passe, c'est que Robert Keating, le poème préféré de Robert Keating, c'est le poème de Walt Whitman. Oh, Captain, my Captain, our fearful trip is done. C'est vraiment les marins qui remercient leur capitaine après le voyage effroyable. Une métaphore, une parabole de la vie magnifique.
Qui était une citation de Keating au premier cours.
Au tout premier cours. Uncle Walt, l'oncle Walt, il le dit. Hein.
Oui.
Et il leur met ça en tête. Et à la fin, pour remercier ce professeur extraordinaire, viré parce qu'un élève s'est suicidé, parce qu'il l'a encouragé à devenir acteur, enfin bref, pour le remercier, il monte sur la table en disant « Oh, Captain, my Captain ». Et ce qui est magnifique, c'est que, en somme, les élèves à cet instant-là obéissent tous à une loi supérieure aux lois de l'école, qui est la loi tout simplement de l'apprentissage. Ils le remercient d'avoir, grâce à lui, ils ont appris quelque chose. Ils n'ont pas été seulement éduqués. On leur a appris aussi l'insolence. Et cette façon qu'ils ont de le remercier est bouleversante.
Quel prof vous étiez, vous, justement?
Moi, j'étais un prof. Alors, quand je suis... j'ai toujours voulu être prof, et ce film ne m'en a pas dissuadé, au contraire. Mais quand je suis arrivé à la fac, mon premier cours, je me suis dit... j'avais tellement le souvenir de ces professeurs qui, en somme, après des années de pratique, n'écoutaient plus les doléances des élèves. Je m'étais dit que je serais un prof hyper attentif, totalement dévoué à ces élèves. Ça a été un cauchemar. Au bout d'un an, on me tapait sur l'épaule, on me tutoyait, etc. Et donc, l'année d'après, arrive la rentrée, toujours à la fac, et les élèves s'étaient passés le mot en disant, tu verras, lui, il est super sympa. En fait, pas du tout. J'étais devenu Mussolini. Et en fait, on se porte mieux quand on est un prof autoritaire, je dois dire, que quand on est un prof sympa. Mais j'étais dévoué.
C'est la leçon de la vie, c'est pas la leçon du film. Hein,
malheureusement, ça marche plutôt comme ça. Disons que la bonté ne s'exprime pas par la gentillesse, elle s'exprime par le don de soi, par tout ce qu'on est capable de transmettre et de donner sans compter. Mais les manières familières, c'est un poison éducatif.
On a tous en tête des très bons profs peau de vache.
Des très bons profs, peau de vache, absolument.
C'est très rare,
les très bons profs sympas.
On est d'accord.
C'est des poètes disparus de Peter Weir, qui, par parenthèse, est un immense cinéaste. Il faut aller revoir Witness, Mosquito Coast.
Witness, c'était beau, avec Harrison Ford, formidable. Et Danny Glover.
C'est un très grand film.
Très grand film.
Et Mosquito Coast aussi, avec Harrison Ford.
C'est bouleversant, parce que Mosquito Coast, il y a quand même cette question permanente d'Harrison Ford à son fils. Am I doing well, son? Voilà. C'est un père qui passe sa vie à demander à son fils s'il ne s'est pas trompé de chemin. Et qui se trompe.
Oui, exactement. C'est un très grand film. Pourrait-on les définir comme un homme qui croit en l'homme? Frank Capra et sa fameuse touch exprimée pleinement dans ce film. Le premier d'ailleurs où son nom s'affiche au-dessus du titre. C'est une grande première. C'est l'extravagant Mr. Deeds, 1936. Longfellow Deeds est un homme simple et naïf et vivant dans une petite ville américaine. Sa vie est bouleversée quand il apprend qu'il vient d'hériter de $20 millions. Mais c'est vrai que ce type, jusqu'à présent, les deux passions de ce type étaient jouer au tuba et écrire des petits poèmes sur des cartes postales pour des commerçants. C'est intéressant, cette idée de l'argent ne m'intéresse pas.
Il joue du tuba. C'est l'idée géniale que, de la même manière que pour exercer correctement le pouvoir, il faut mépriser le pouvoir, de la même façon, pour être un bon riche, il faut ne pas aimer
aimaient l'argent. Sénèque l'avait dit 2000 ans plus tôt, Mr. Deeds le met en œuvre. L'homme n'a pas choisi d'hériter, c'est une malédiction pour lui, il veut jouer du tuba toute sa vie, tout ça l'ennuie, et il est tenu pour un fou, pour un extravagant, par le conseil d'administration, qui lui-même gère la fortune dont il a hérité.
Ouais.
Il est tenu pour le plus extravagant des hommes, jusqu'au moment où, qui est un des plus beaux retournements du cinéma, et peut-être le plus beau retournement de Capra, jusqu'au moment où il finit par plaider sa cause, et là, il...
Il faut juste redire le contexte, comme on est en 1936, quelques années après la crise de 29, qui sonne toujours très fort et très durement pour la population.
Absolument.
Et lui s'engage, Capra, à faire un film presque pro-New Deal de Roosevelt.
Alors, c'est exact, c'est Biden, en fait, c'est Roosevelt. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit, parce qu'au début, quand il reçoit de l'argent, il dit, je vais en donner à tout le monde.
Oui.
Alors, les financiers sont là, se disent, mais ce type est fou, ce type est dangereux, il va ruiner les usines, etc., etc., c'est la fin du monde. Et donc, ils essaient de l'empêcher. Mais, quand Mr. Deeds plaide sa cause, il dit, mais enfin.
On va l'écouter.
Écoutez-moi. Hein,
c'est le procès, c'est une des dernières scènes, il s'est tu jusqu'à présent, et il va s'exprimer, Gary Cooper.
Quoi, Monsieur Sédar justifie-t-il son emportement? Sauf erreur, dans n'importe quel système de gouvernement, il y en aura toujours pour prendre la tête et d'autres pour les suivre. Sur la route qui passe devant chez moi, il y a une côte assez raide. Chaque jour, j'observe les voitures qui la grimpent. Il y en a qui foncent à pleine vitesse, et d'autres sont obligés de passer en seconde. Il y en a même qui tout sautent, crachotent et se retrouvent en bas de la côte. Mêmes autos, même essence, et pourtant le résultat diffère. Et je dis au chauffeur qui grimpe la côte à l'aise qu'il devrait donner un coup de main à ceux qui calent. C'est ce que je veux essayer de faire avec mon argent, aider ceux qui n'arrivent pas à monter la côte. Qu'est-ce que Monsieur Sédar espère me voir en faire? Le lui remettre à lui ou bien à d'autres nantis? Si vous le permettez, votre honneur, je vais aller au sommet de la courbe une minute. Et vous, les amis qui êtes ici, ceux qui ont demandé une ferme, allons, debout! Eh bien, vous les voyez, tous ceux que je veux aider et qui en ont besoin. Monsieur Sédar et Monsieur Simple, qui sont des nantis, n'en ont pas besoin. Si j'étais à bord d'un bateau et que je vois un type dans une barque fatigué de ramer et qui voudrait qu'on le tire, et un autre en train de se noyer, qui croyez-vous que je voudrais sauver? Monsieur Sédar, qui est juste fatigué de ramer et qui demande qu'on le tire, ou ces hommes qui sont en train de se noyer? Un enfant de 10 ans saurait répondre à la question.
Extravagant Mr. Deeds, on a oublié de dire quelque chose, Raphaël Enthoven, c'est qu'il y a quand même une question rousseauiste dans le film. Quand il est ivre dans la rue, Mr. Deeds dit « back to nature », retour à la nature.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on est dans le monde de Capra, c'est-à-dire c'est un monde où il oppose parfois ingénument d'ailleurs la candeur de ces gens qui savent rester des enfants, que ce soit Mr. Deeds ou le héros de La Vie est belle ou de tous les personnages de Capra, c'est la rencontre sommet de l'enfance et du cynisme Capra, comme partout.
Oui.
Et c'est magnifique ce qu'il fait. On a l'équivalent avec Miyazaki aujourd'hui, mais dans un registre tout à fait différent. Mmh. Mais ce qui est très beau dans la plaidoirie de Mr. Deeds, juste ça, c'est que c'est un homme qui... C'est un monument de solidarité, c'est une déclaration de solidarité, mais c'est aussi le propos d'un premier de cordée, qui considère qu'il doit lancer des cordes et qu'il doit tirer ceux qui ont moins que lui, voire qui considère que sa fortune doit ruisseler sur ceux qui ont moins. C'est aussi ça son propos. On est en Amérique
et c'est pas ceux qui ne sont rien.
Absolument. Bien sûr. Oui. Non mais sauf que ce qui est intéressant, oui, mais dire qu'ils ne sont rien, c'était aussi un retournement du stigmate parce que quand l'international le dit,
revenons à Capra.
C'est notre... Restons sur Capra. C'est très intéressant de voir. On est en Amérique. Quand Biden, le discours récent que Biden vient de tenir, est un discours qu'on tient pour un discours de Roosevelt, un discours de New Deal, un discours où l'État retrouve ses droits, père de la nation, etc., etc. Mais c'est tout comme le discours de Mr. Deeds, un discours qui consiste à relancer la machine plutôt qu'à distribuer sans compter.
Là, nous entrons dans le futur, un futur dans lequel les aliens se dissimulent parmi les humains et dont l'activité d'une organisation secrète est de les réguler. C'est Men in Black. Vous avez choisi le troisième épisode. Face à face, Tommy Lee Jones, K, et Will Smith, J, qui devra, dans ce troisième épisode, faire un saut dans le temps en 1969, sale période pour les Noirs, d'ailleurs, lui dit quelqu'un, pour sauver son partenaire et qu'un alien belliqueux, Boris l'animal, menace et en même temps sauver la planète. Quel programme!
Ah oui, mais il y a surtout un personnage dans ce film qui s'appelle Griffin, qui est en fait l'équivalent de Leibniz, philosophe Leibniz. Pour le dire très simplement, Leibniz imagine que Dieu a sous les yeux la totalité des mondes possibles. Le monde où nous échangeons comme ça, le monde où nous avons une autre conversation, le monde où je suis arrivé en retard, le monde où vous ne m'invitez pas. Une infinité de mondes possibles. Et Dieu choisit de porter à l'existence le meilleur d'entre eux. Et l'équivalent de Leibniz, c'est Griffin, qui voit toutes les possibilités qu'il a sous les yeux, tous les scénarios possibles, et en fait, dont tous les univers se déroulent simultanément. Et nous sommes dans l'univers où
Griffin, incarné par un génial acteur qui s'appelle Michael Stuhlbarg.
Ah oui.
Vous rappelez qu'il était l'acteur de Serious Man des frères Cohen.
Ah mais bien sûr.
Ouais, mmh. C'est un extraterrestre c'est avec ses yeux incroyables, capable de voir l'ensemble des futurs alternatifs. Mmh. Donc, on le rencontre, ce Griffin.
Je pourrais trouver ce type.
Tu me prends pour une bille.
Il est ici ?
Ici est une notion relative, c'est un être pentadimensionnel. Cette race peut habiter et visualiser une infinité de plans spatio-temporels statistiques simultanément.
Ah ouais, ça a l'air marrant. Bon boulot. Griffin, c'est ça ? Nous sommes ici
à cause de Boris l'animal.
Exact, nous pensons qu'il pourrait venir
me tuer. Oui, il va arriver dans 2 minutes, à moins que nous ayons le futur alternatif où tous les feux étaient verts sur Bovary Street lui permettant d'arriver plus tôt. Et il s'apprête à déclencher une arme depuis la porte, auquel cas on est tous morts dans 2 secondes. Ah, ouf, cette fois c'était moins une.
Allez, K, j'ai besoin de mon flingue cosmique.
Les Boglodites consument toutes les planètes sur leur passage. La mienne, celle de Roman, du Parlaxien. J'ai essayé de les repousser, mais nous pouvons les repousser ici, si nous leur interdisons votre monde. Nous pouvons les repousser pour toujours. Ils seront morts de faim avant d'atteindre la planète suivante.
Bon, vous n'avez pas choisi le meilleur, mais Nin Black non plus, là non plus.
Mais c'est le meilleur personnage. C'est le plus puissant.
Oui, ouais.
C'est celui des univers parallèles.
Oui.
L'idée est toute simple. Vous savez, on se fait souvent plaisir dans la vie en se disant si j'étais passé ailleurs, si j'avais rencontré quelqu'un d'autre, etc. Si le monde avait été différent. Mr. Nobody, le film magnifique de Jacob van Dormael.
Ça, c'est marrant que vous parlez de ça, parce que, à un moment, il lui dit, tu sais quelle est la forme la plus dévastatrice de l'univers? Il répond le sucre, l'autre lui dit non, le regret.
Ah, mais bien sûr, évidemment, voilà. Puisque le possible, l'idée qu'un autre monde est possible est un enfant non pas de l'espoir,
oui.
Mais du regret, qui est un espoir à l'envers.
Ouais.
Et nous vivons on se console de notre vie, de l'unicité de notre vie, déplorable, en imaginant toutes les vies qu'on n'a pas eues. Or là, nous avons, avec Leibniz, avec Men in Black, et avec aujourd'hui ce qu'on appelle les plurivers, l'idée toute simple que tous les mondes existent simultanément et que nous ne sommes que les dépositaires de l'un d'eux.
Il y a une remarque que j'aime beaucoup, il y a plein de sujets de philo d'ailleurs, il dit « la plus amère des vérités est préférable au plus doux des mensonges ».
Oui,
c'est chouette, hein,
c'est vrai, c'est vrai. La vérité est de meilleure compagnie, enfin la vérité qui dérange est de meilleure compagnie que l'illusion qui réconforte.
Voilà. Ce film-là, c'est évident, ne pouvait que passionner le philosophe que vous êtes, Raphaël Entoven, c'est Matrix des sœurs, Lana et Lily Wachowski. La Matrice, un monde virtuel créé pour mieux nous maîtriser afin de transformer l'être humain. La Matrice limite le champ de vision et donc la perception du réel. Tout cela fait penser à une certaine caverne d'un certain Platon.
Oui, pardon. Oui, absolument. J'ai fait mon Finkielkraut. Excusez-moi. J'ai fait celui qui ne savait pas qu'il était en direct. Oui, bien sûr. C'est plus encore Descartes que Platon. C'est-à-dire que c'est l'idée que ce que je vois, si ça se trouve, n'est qu'une mise en scène et j'ai pas les moyens de prouver le contraire. Ça, c'est Descartes. C'est le doute hyperbolique cartésien revisité par Matrix. Après, ils prennent des libertés avec la lettre de Descartes. Mais la première demi-heure de Matrix, où le type croit dur comme fer au monde qui l'entoure, qui est le même que le nôtre,
oui.
Et où on lui apprend qu'en fait, ce monde-là n'existe pas, ce ne sont que des impulsions cérébrale, eh bien ça, c'est exactement l'hypothèse de Descartes dans les méditations métaphysiques quand il dit « Mais quelle différence entre ce que je sens et ce qui existe ?
Oui.
Comment prouver que ce que je sens ou ce que je pense accède à l'existence ?» C'est la grande question de Descartes et eux s'emparent de cette question et ils s'en sortent à leur façon. On pourrait, c'est infini. Hein,
autour de Ken Reeves donc, qui joue le rôle de
Neo.
Mais Neo est-il l'élu, le libérateur que l'humanité attend ?
Ben ça,
alors, selon la prophétie, alors allons voir l'oracle et ce qu'elle en dit.
Vous savez pourquoi Morpheus vous a amené à moi? Alors, à votre avis, croyez-vous être l'élu ou pas?
Honnêtement, je ne sais pas.
Vous savez ce que ça veut dire? C'est du latin. Ça veut dire « connais-toi toi-même ». Je vais vous confier un grand secret. Être l'élu, eh bien, selon moi, c'est un peu comme être amoureux. Jamais on n'est averti quand on est amoureux, on le sait. Du cœur aux couilles, des muscles à la moelle des os.
Je ne suis pas l'élu.
Je suis désolée. Vous avez le pouvoir. Mais on dirait que vous attendez quelque chose.
Quoi ?
Votre prochaine vie, peut-être. Qui sait ? C'est toujours comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui vous fait rire ?
Morpheus. Il a presque failli me convaincre.
Je sais. Pauvre Morpheus. S'il disparaît, tout ça me perturbe.
Déclaration des sœurs Wachowski à propos de ce Matrix, qui voulait, en fait, il voulait exprimer la frontière entre l'identité réelle et l'identité numérique qui sera de plus en plus floue et dangereuse. Ils avaient un peu raison, hein.
Ah oui, ils avaient bien vu la chose. C'était magnifique. Bien avant les réseaux sociaux, ce film est prodigieux pour beaucoup de raisons, et que le futur dévoile. C'est ça qui est étonnant. C'est un film dont la richesse est dévoilée par toutes les choses qu'on invente aujourd'hui et qu'il a prévues avant. Mais un point très très important sur la déclaration de l'oracle. Ils vont voir l'oracle pour savoir si lui est l'élu qui va sauver les humains de la matrice. On va pas rentrer dans les détails, mais bon, il a besoin de savoir. Et l'oracle lui dit, je suis désolé mon grand, t'es pas l'élu. Que lui dit l'oracle ? L'oracle lui dit ce qu'il a besoin d'entendre pour se conduire comme l'élu qu'il va devenir. Elle lui délivre ce qu'on appelle une vérité capacitaire. C'est-à-dire, elle lui dit ce qu'il a... Non pas, tu es l'élu, mais tu seras l'élu si tu pars du principe que tu ne l'es pas et que tu as tout à faire pour le devenir.
Elle lui insuffle le doute aussi.
Mais évidemment, c'est-à-dire que l'oracle ne prédit pas l'avenir. L'oracle dit au présent ce que nous avons besoin de savoir pour conquérir la maîtrise de l'avenir. Et c'est ça qui est très beau là-dedans. Elle ne prédit pas l'avenir, elle lui dit ce qu'il a besoin d'entendre.
Tout en faisant des cookies.
Tout en faisant des cookies et en les lui faisant goûter.
Voilà. Il y a aussi une référence, bon, il y a Platon et Descartes, certes, mais il y a Alice au Pays des Merveilles aussi.
Il y a Alice, c'est au début du film, absolument. Ouais. Il faut suivre le lapin blanc jusqu'au fond du terrier.
Et même dans le miroir, la main dans le miroir.
Et la main dans le miroir, à ceci près que le lapin blanc ne sait jamais où il va, alors que Morpheus, qui se sert du lapin blanc, lui sait où il emmène Néo. Donc là encore, ils prennent des libertés avec Lewis Carroll comme avec Descartes.
Enfin, retour sur Terre, dans la France de 1936, celle de Sacha Guitry, qui adapte au cinéma sa pièce « Faisons un rêve », avec lui-même dans le rôle de l'amant, sa troisième femme dans la vraie vie, Jacqueline de Lubac, dans le rôle de sa maîtresse, mariée à un certain Rému. Il l'a fait trois fois avec ces trois femmes différentes.
Oui, Charlotte Lizès, puis Yvonne Printemps, puis Jacqueline de Lubac ont successivement incarné le rôle de la femme adultère, de l'épouse adultère.
Différence d'âge entre les deux, entre Guitry et de Lubac.
25 ans. Parce que quand ils voulaient pouvoir dire le jour de leur mariage, puisqu'elle a la moitié de mon, puisque j'ai le double de son âge, il est normal qu'elle devienne ma moitié. Je pense que c'est une raison suffisante de l'épouser dans l'esprit de Guitry. Il peut se marier pour un bon esprit. Oui, il peut se marier pour un bon mot, absolument.
On peut mettre en place le deuxième acte, parce qu'on va écouter l'extrait après, donc il lui a donné rendez-vous.
Il faut dire deux choses sur cette pièce. La première, c'est que c'est une pièce de 1916, c'est la première fois qu'une dame découche dans le théâtre français. C'est la première fois. Ça s'est jamais vu avant. C'est la première fois. C'est une dame de la bourgeoisie, etc. C'est la première. C'est un scandale absolu. C'est dans le théâtre bourgeois qu'on fait découcher les dames. C'est comme ça. Ça c'est quand même le premier point. Et l'autre chose, c'est votre question, j'ai oublié.
Mettre en place le deuxième acte.
Ah, le deuxième acte. Il faut dire que le deuxième acte est un seul en scène. Oui. Guitry est seul en scène pendant 25 minutes. C'est l'invention du one man show. Oui. Il y a notamment cette scène où il lit, comme sa maîtresse est censée le rejoindre, il l'imagine dans son taxi.
On écoute.
Oh, je la vois. Je la vois dans le fond du taxi, comme ça. Elle tremble tellement, elle a peur. Elle tourne le coin de l'avenue de l'Alma. Elle traverse les Champs-Élysées. Premier refuge, second refuge. Oula! Je la voyais pas qui tournait le coin de la rue Washington. Maintenant, elle traverse la petite place où il y a les nouveaux refuges, là, qui sont si compliqués, comme tout ce qui est destiné à simplifier la vie. Elle passe devant l'horloge de précision, qui retarde d'1h35 depuis 1h30. Elle prend le boulevard Haussmann. Va, prends-le, mon amour. Prends-le, je te le donne. Il est à toi, le boulevard Haussmann. Allez, descends le boulevard Haussmann. Oh! Tension aux autobus, mon Dieu, misérable, ne me l'abîme pas surtout. Allez, va, mon amour, continue. Tiens, elle passe devant mon tailleur qui veut un acompte. Oh, bon, si tu n'en auras pas, allez, continue. Oh, elle passe devant un second tailleur. Passe de front haut, j'y dois rien, celui-là. Va, continue. Oh, elle passe devant un troisième tailleur. Quel quartier, mon Dieu. Et on s'étonne que ce coin-là soit désert. Va, continue. Ah, Shakespeare, statue de Shakespeare, elle tourne autour de Shakespeare. Soyons pas étonnés si demain Shakespeare a la tête comme ça. Elle prend l'avenue de Messine, le chauffeur met en seconde. Ne cale pas ton moteur, allez va, monte, continue encore un peu. Mais non, pas au 20, 30, adieu au 25, continue encore un peu. Là, freine, arrête, là. Descends mon amour, descends, paye. Ah ça faut payer, y a rien à faire. Y a quoi, 6 francs 50, c'est pas cher, donne-lui 40 sous pour lui. Je vais te rendre tout ça, tu vas voir. Paye, là. C'est ça, traverse le trottoir. Mais non, ne te regarde pas, mon amour, à cette heure-ci, qui veux-tu qui te regarde? Traverse le trottoir, sonne à la porte d'entrée, impatiente-toi, ressonne, pousse la porte, ferme la porte, traverse en bas le vestibule, prends l'ascenseur. Non, tu vas mieux monter à pied, les 21 marches, ils nous séparent, tu as raison. Ça ira aussi vite, va, allez, va, monte. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1,
On ne saura pas la suite. Il simule l'imagination des spectateurs, Guitry, de
c'est
follement.
Extraordinaire, c'était extraordinaire. Ouais. Il est tellement amoureux de son imagination qu'il voit ce qu'il imagine. Il n'y a plus aucune différence. J'attire l'attention de tout le monde sur le fait que ce monument de théâtre, qui est le deuxième acte de Faisons un rêve, Guitry atteint le chef-d'œuvre de temps en temps. Faut le savoir. Toutes ses pièces sont drôles et charmantes. Parfois, c'est des chefs-d'œuvre. Pas en entier, mais parfois, il y a des. Le deuxième acte de Faisons un rêve est un des plus grands moments de théâtre français.
Une scène qui pourrait pas être refaite maintenant.
Non, pour une raison très simple, c'est que les applis ne le permettent pas. Si vous avez l'appli truc ou l'appli machin, vous suivez la voiture. Vous savez où est la voiture.
Oui, c'est pas drôle.
Donc c'est terminé l'imagination. C'est exactement la même chose, vous savez, avec l'appli qui consiste à de reconnaissance faciale. Oui. Baudelaire écrit à une passante. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Si Baudelaire avait eu un smartphone, il aurait shooté la personne, il l'aurait retrouvé sur les réseaux et immédiatement après, il avait son portable. Et c'était fini du sonnet.
C'était la liste de Raphaël Antoine. Tiens, d'ailleurs, il y a beaucoup de scènes parlées, etc. Vous ne parlez pratiquement pas de mise en scène, justement, dans ces films.
C'est vrai. Parce que j'y suis probablement sensible sans le savoir. J'y fais moins attention. Après, il y a des moments, par exemple, qui m'ont beaucoup marqué et traumatisé. Je me suis aperçu ensuite que c'était des moments importants. Dans Citizen Kane, par exemple, la fameuse succession des trois plans où Orson Welles réinvente complètement la profondeur de champ, me paraît en réalité, mais ça c'est Deleuze qui me l'a appris, l'introduction de la temporalité par l'image, et c'était très important de le découvrir. Mais c'est moins là-dessus que je travaille que sur les dialogues.
C'était une émission de cinéma. Là. On va se retrouver après pour les conseils de lecture et de film. En attendant, Damso, Sentimental, vous restez avec nous, bien sûr, Raphaël Antoine. Merci beaucoup.
Love. Sentimental. J'attends qu'il pleure. La pluie confonde tes larmes, messieurs, quand tu parles de nous. Yeah. Tu fais la gueule, tu t'imagines qu'un jour, bague en main, je mettrai à genoux.
Supplie-moi.
Yeah. Mais ce n'est pas si simple, amour. On se le dit tous les jours, mais ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas si simple, amour. On se le dit tous les jours sans forcément s'aimer. Sentimental.
Sentimental.
Sentimental. Pourquoi c'est si dur de baiser sans se faire de mal? Sans se faire de mal. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. De l'amour, sa mère. 27 ans que je tourne autour du soleil. Pourtant, je n'ai toujours pas vu la lumière. 5 années qu'on fait que se dire je t'aime. Pourtant, toujours pas de bague à l'annulaire. Et puis, on se quitte pour une go. Des bisous à la baisse. Des confidences à minuit. Au simple échange par honte. Séparation. Et pour ceux qui se disent oui. Devant la famille, les filles divorcent. Bon, précipitation. Non, ce n'est pas si simple, amour. On se le dit tous les jours, mais ce n'est pas vraiment vrai. Non, ce n'est pas si simple, amour. On se le dit tous les jours, sans forcément s'aimer. Sentimental.
On va commencer par des conseils de livres, Laurent. Mais tiens, on va commencer par juste citer votre nouveau livre, qui est une parodie féministe de l'école des femmes, qui s'appelle L'école des dames, Raphaël Antoine, aux éditions de l'Observatoire, et qui sort le 12 mai.
C'est une parodie en trois actes.
En trois actes.
Sinon.
Et en Alexandre.
Ouais, en autre sortie de livre, il y a C'était Kubrick de Michael Herr, publié aux éditions Séguier. Laurent, Michael Herr, qui fut son ami, confident et collaborateur pendant près de 20 ans.
Oui, et qui était à l'origine un correspondant de guerre, ce qui fait qu'il a co-scénarisé quand même Full Metal Jacket. Oui. Kubrick a profité de son de son savoir, comme Coppola profitera aussi de son savoir sur Apocalypse Now. Bref, le monsieur a quelques lettres de noblesse cinématographique. Alors effectivement, ça a été un très très proche de Kubrick, et en 110 pages, donc c'est un petit livre, il dresse un portrait extrêmement dense, extrêmement précieux et vivant de son ami. C'est sans concession, mais il y a toujours de la bienveillance. C'est Kubrick au quotidien dans son travail. Il rétablit un certain nombre de vérités, par exemple le côté ours de Kubrick. Alors il dit ceci, toujours est-il que c'est une des personnes les plus sociables que j'ai connues, et que l'essentiel de ses interactions passa par le téléphone, n'y changeait rien. Il envisageait le téléphone comme Mao la guerre, c'est-à-dire comme l'instrument d'une offensive de longue haleine où le contrôle du terrain était décisif et le timing crucial, tandis que la durée elle-même n'avait pas d'importance, sinon comme une donnée à mettre de son côté. Une heure n'était rien, un simple prélude, une ouverture, un petit avant-goût de sa virtuosité. Voilà, je trouve ce passage formidable, et tout le livre est à cette aune-là, extrêmement bien écrit, extrêmement précis, joyeux. C'est un très bel hommage à cet ami, et une fois de plus, c'est un hommage sans complaisance. Alors, on ne l'a pas encore dit, c'est publié par l'éditeur bordelais qui s'appelle Séguier, qui est formidable. Alors, c'était Kubrick, Michael Herr.
De l'autre côté du spectre presque serein de Luc et Jean-Pierre Dardenne, publié aux éditions Yellow Now, la ville de Serein, bien sûr, qui sert d'écrin à presque tous les films réalisés par les frères.
Exactement. Alors en fait, c'est un livre écrit par Thierry Roche pour le texte et pour les photos, magnifiques photos de Guy Jungblut. Alors c'est un vrai pari, parce qu'effectivement, c'est la ville de la plupart des films des Dardenne, et cette ville, eh bien, l'auteur la décrit comme ça. Serein, la ville de la plupart des films des Dardenne, est aussi une ville ouvrière. Ballottée par l'économie et soumise à l'inspiration d'urbanistes plus ou moins inspirés, elle est de longue date un haut lieu des luttes ouvrières. Elle porte en elle les stigmates de son passé, riche, douloureux, rempli d'espoir et de désillusion. Une ville d'aujourd'hui où tout progressivement s'efface. La mémoire, la carcasse des usines, les maisons vétustes, comme sur une ardoise magique qu'il suffit de secouer pour en faire disparaître le dessin. Les frères Dardenne ont accompagné cette mutation. Ce n'était pas leur dessin, simplement ils filmaient là, et l'histoire, avec ses moments forts et ses creux, se déroulait à l'arrière-plan. C'est un très très beau projet de relire une œuvre cinématographique à travers ce que Julien Gracq aurait appelé la forme d'une ville. Et vraiment, c'est un travail passionnant sur ce qu'est un décor pour des auteurs tels que les frères Dardenne. C'est chez Yellow Now.
Deux films, à commencer par celui-là de Ken Loach, Angleterre 1750. En fait, c'est la rencontre d'un bandit avec un jeune orphelin et une jeune fille. Ça s'appelle Black Jack, 1978, édité chez Rimini, et c'est rare.
Exactement, oui, c'est peut-être le film le plus méconnu, on peut le dire, de Ken Loach. Pourquoi ? Parce que ça se passe, comme vous le disiez, dans l'Angleterre du 18e siècle. Mais on est évidemment avec Ken Loach plus proche de Raining Stones que de Barry Lyndon, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, il y a une petite pique de Ken Loach adressée à Kubrick dans les bonus qui est tout à fait réjouissante. Ah ouais. Il disait, moi je fais pas le même cinéma que lui. On s'en doute, il y a moins de chandelles. Ouais. Et un peu plus effectivement de réalité sociale. Bon, donc on est loin de la reconstitution de Kubrick, mais c'est Ken Loach. Bon, non, ce qui l'intéresse évidemment, c'est le portrait social d'une troupe de forains itinérants et de leur insertion ou non dans cette société si particulière qui était la société britannique de cette époque-là. C'est aussi un film d'aventure, et au centre, c'est très étrange, il y a un acteur français, Jean Franval, qui est un acteur, on voit tout de suite on sait qui c'est en voyant sa photo, son nom ne dit pas grand-chose, mais c'est un vrai second rôle français, et il était là pour cause de coproduction avec la France, mais il joue évidemment, forcément, un Français à l'intérieur de cette histoire très très britannique. Ça vaut le coup de découvrir ou de redécouvrir ce Black Jack qui est, vous le disiez, en coffret DVD Blu-ray, édité par Rimini.
L'autre DVD, j'adore ce film, c'est Frances de Graham Clifford, édité chez Studio Canal, avec bien sûr Jessica Lange, qui incarne cette comédienne fragile que le système hollywoodien a complètement cassé.
Voilà, là aussi, combo DVD Blu-ray, très très belle initiative de ressortir ce film, Frances Farmer, 1913-1970. Alors, c'est un biopic très classique, hein, qui est mis en scène assez classiquement. Il ne faut pas chercher une forme novatrice de ce point de vue-là. C'est toute la vie, a priori, qui est prise en compte, c'est pas un moment. Donc, on part de ces années lycée, où la petite Française a juste déclaré dans un devoir, mais qu'elle a lu à tout tout le monde que Dieu est mort. Ce qui est effectivement un très bon, une très bonne façon de démarrer dans la vie.
Elle a mis les guillemets ou pas?
Non, Dieu est mort. Elle le prouvait en quelque sorte. Ce qui a un peu effectivement heurté la bonne société américaine de ces années-là et fait en sorte que la jeune fille a dès le départ été singularisée. Et cette singularité, elle la conserve toute sa vie. Sa mère n'arrête pas d'essayer de prendre l'ascendant sur elle. Il y a vraiment une emprise, comme on dit maintenant, maternelle sur cette jeune fille. Et puis Hollywood va prendre le relais en essayant là aussi de la formater. Et jusqu'au bout, jusqu'à même des interventions chirurgicales peu reluisantes, c'est-à-dire une lobotomisation, jusqu'au bout, cette emprise sera là, et jusqu'au bout, elle se battra, jusqu'au bout, elle essaiera d'être cette femme forte, libre, qu'elle avait rêvé d'être en étant jeune fille.
Et jusqu'au bout, Jessica Lange s'est battue pour ce film,
qu'elle co-produit. Donc c'est le plus beau rôle, c'est chez Studio Canal Frances.
Enfin, un cadeau pour notre invité, c'est un beau coffret, on parlait de politique américaine, on y retourne.
263 minutes, je vous laisse faire le compte des heures de programme que vous avez devant vous en regardant City Hall de Frederick Wiseman. C'est publié en coffret DVD Blu-ray chez Jour de Fête. Ce film est sorti chez nous 15 jours avant la défaite de Trump et la victoire de Biden.
C'est Boston.
C'est le maire démocrate.
C'est le maire démocrate de Boston.
Qui n'a qu'une envie, c'est la question comment instaurer la démocratie au quotidien, comment rétablir la délibération, comment faire en sorte que ma ville soit une sorte d'agora.
Martin Joseph Walsh, qui s'appelle.
Exactement. Avec tous les communautarismes présents aux États-Unis, et ça nous, vu d'ici, ça nous semble toujours incroyable, mais ils sont présents, ces communautés sont présentes, elles débattent. Il y a 25 minutes de débat filmé comme ça, dans la longueur, par exemple sur l'instauration d'une maison du cannabis dans un des quartiers de Boston. C'est passionnant, parce que là, vraiment, effectivement, il se coltine avec cette interrogation, comment organiser le vivre ensemble, comment injecter de l'esprit public dans cet espace qui l'est de moins en moins qu'on privatise.
Et de produire du commun dans un monde de communauté.
Exactement. C'est tout le pari de ce film et franchement, ça vaut vraiment le coup de passer le temps nécessaire pour découvrir City Hall de Frederick Wiseman qui est dite en DVD Blu-ray Jour de Fête.
Merci infiniment. Pardon, je n'ai qu'un conseil à donner, c'est gardez vos DVD parce que sur les plateformes, on peut expurger tous les morceaux qui sont litigieux.
Excellent
conseil. Les DVD, en revanche, eux, sont inamovibles.
Excellent conseil.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous, vraiment.
Merci et au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et il y a des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par David Leprince et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Raphaël Antoven, j'y étais. Thank you.